Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Marion Lefebvre.
Pendant les jours d'école, je me réveille à 7h55, comme d'habitude. Je me prépare, je prends le petit déjeuner à 8h30, je fais mes devoirs.
Dans une métropole, la densité de population est faible, moyenne, élevée.
Alors, remplace le mot en orange par celui qui convient. Écris la phrase. Il avait une pelle en fer. Qui c'est qui a une pelle en fer dans l'histoire ?
Après, maman, pour ne pas qu'on s'ennuie, elle a acheté des perles et des fils pour qu'on fasse des animaux en perles.
Ouais ! Il est bon. Un bidonville est un quartier pauvre.
Moi, le confinement, j'aime pas parce que j'ai l'habitude d'être dehors, de marcher dehors, de prendre l'air. Là, on est obligé de rester chez nous.
La maîtresse nous envoie des mails tous les jours pour nous donner du travail.
Voilà, et tout doux sur la taille des lettres, là. Non, mais fais gaffe, regarde la tour 1, on n'arrive pas à le lire à moitié. Eh bien, ma chérie.
Ouais, j'ai tout.
C'est quoi les résultats ?
J'ai 10 sur 10.
Et pour t'expliquer un peu le confinement avec un enfant de 5 ans qui s'appelle Marcus, voilà, qu'on s'est présenté déjà.
J'adore Jimmy.
Et écoute, ça se passe plutôt pas mal, surtout en ce moment, on peut dire qu'est-ce qu'on fait de drôle.
La fusée.
Pas de crèche, pas d'école, pas de collège, pas de lycée. Ça fait bientôt 10 jours que les parents, dans toute la France, doivent composer avec les moyens du bord pour assurer, tant bien que mal, la fameuse continuité pédagogique. Tout en jonglant parfois, bien sûr, avec le travail, comme on en parlait hier. Sur le papier, la situation peut sembler sous contrôle. Après tout, grâce à Internet, ça devrait être possible, non ? Sauf que tout le monde n'est pas égal quand il s'agit de travailler en ligne, tout le monde n'a pas le bon ordinateur ou même un ordinateur de disponible, tout le monde n'a pas d'endroit calme où travailler, et les plateformes éducatives ne fonctionnent pas toujours. Alors, comment est-ce que les parents gèrent ça depuis le 16 mars, date de la fermeture des écoles ? Qu'est-ce que ça change du point de vue des enfants ? Qu'est-ce qui leur plaît ? Qu'est-ce qui leur manque ? Comment est-ce qu'on les occupe tout en continuant de travailler ? Comme d'habitude, on écoute vos témoignages, mais aussi ceux de vos enfants, à qui vous avez tendu le micro. Bienvenue dans Programme B.
Salut tout le monde, il est 9h05, lundi 16 mars. Et j'ai déjà envie de mourir. Parce que je me rends compte que le télétravail va être compliqué avec les deux enfants. Mais j'ai imposé des règles. Qui fait comme si on était à l'école, c'est-à-dire que l'école commence à 9h30, on s'est levé, on a petit déjeuner, je leur ai demandé de s'habiller comme si elles allaient aller à l'école et rester dans une dynamique de travail pour éviter les cris et les disputes toutes les 5 minutes. J'ai autorisé la petite de 4 ans à ne me poser qu'une seule question par jour. Elle l'a déjà cramée. Voilà, j'espère que à 17h, ça ira bien, parce que les jours vont être longs. Quoi qu'il en soit, il faut que je trouve des activités, des devoirs. Donc la grande, c'est pas difficile, elle a un logiciel qui s'appelle Pronote, sur lequel elle peut faire ses devoirs. Et la petite, je crois que la maîtresse a envoyé des choses. Mais attention, car il n'y a jamais de vie sans obstacle. La zone du Pré-Saint-Gervais, n'a pas internet. Voilà, c'est super.
Et pour l'organisation pour l'école, là, aujourd'hui, j'ai commencé à réveiller les enfants un peu plus tard quand même, parce que au lieu de les réveiller à 7h, je les réveille à 9h, comme ça, je reste avec eux. Ils font leurs devoirs. Quand les a envoyés sur Internet, sur Pronote précisément. Et après, je gère, j'essaie de corriger les fautes. S'il y a quelque chose à faire, j'apporte mon soutien. Sinon, je demande à sa sœur, qui est toi-même. Donc là, on essaie de gérer au mieux, quoi.
Bon, à l'école ou peut-être à d'autres écoles, bah, si on a des difficultés, bah, on donne le numéro de la maîtresse et elle aussi, elle nous donne. Et on peut se parler sur WhatsApp en vidéo, elle nous aide, elle fait le travail avec nous. Et après, elle nous laisse travailler tout seul et après, on se reparle pour voir si on a bon. Et après, bah, elle nous laisse tout tranquille.
On le disait au début, l'heure est à la débrouille. On se connecte comme on peut sur les plateformes mises en place par l'Éducation nationale.
Bonjour Programme B. Alors, moi je suis prof de lettres dans un collège de banlieue parisienne, en banlieue proche, au Blanc-Ménil. J'enseigne à des classes de 4e, 3e, 6e, 5e, et j'utilise au quotidien maintenant l'outil numérique qui a été mis à notre service, qui s'intitule Ma classe en ligne. Ça me permet de faire cours avec des élèves de manière virtuelle. Je leur donne un horaire précis et ils se connectent. Et parmi les travaux que je leur ai demandé de faire, puisque en tant que prof de français, on privilégie quand même beaucoup la production écrite, je leur ai demandé de tenir un journal de confinement dans lequel ils devaient raconter leur quotidien, les sentiments qu'ils ressentaient et les activités qu'ils faisaient. Bonjour les élèves.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va,
oui, ça va.
Ça va, merci. Est-ce que vous avez bien écrit dans votre journal de confinement ?
Oui. Oui, madame.
D'accord, vous êtes d'accord pour le lire ?
Oui. Mes sentiments pendant cette semaine sont négatifs puisqu'on ne peut pas aller à l'école et mon ENT ne marche qu'une fois sur deux.
Je ne peux rien faire à part rester chez moi avec ma famille.
J'ai regardé la télé, j'ai joué avec mon petit frère. Je l'ai aussi aidé à faire ses devoirs.
J'ai aidé ma mère à faire la cuisine, un gratin de pâtes et on a aussi fait un gâteau aux amandes. Nous sommes fatigués, épuisés, tristes et déçus, mais d'un côté nous sommes aussi contents puisqu'on peut dormir le matin et heureux puisque je suis avec ma famille.
Salut, moi c'est Timothée, je suis professeur de français dans un lycée à Coulommiers. Et du coup, j'ai dû faire face là, avec l'épidémie du coronavirus, au problème de l'école à distance. Du coup, comme l'ensemble des personnels d'éducation du coup, de France et de Navarre, on a dû donc du coup s'adapter à cette situation un peu particulière et on a eu très peu d'informations finalement du ministère. Donc du coup tout le monde s'est un peu retrouvé à faire comme il pouvait. Je me suis connecté ce matin et la plateforme du coup sur laquelle on a l'habitude de travailler a planté. Et donc du coup j'ai fait tout ce que je pouvais pour contacter mes élèves. Et j'ai essayé de les contacter par mail et je leur ai rédigé un grand mail pour les préparer un peu du coup à ce qui va se passer. Donc c'est un peu compliqué aussi pour nous puisqu'on ne sait pas grand chose. Et du coup je leur ai donné plusieurs conseils et notamment aussi de prendre soin d'eux. Et je leur ai donné, ça m'a fait un peu rire, du coup une liste de films à regarder sur Netflix pour qu'ils côtoient le numérique de manière intelligente. Je leur ai donné aussi une série de podcasts à écouter. Et du coup, je leur ai donné des rendez-vous sur l'espace numérique sur lequel on travaille habituellement. Et du coup, c'est un peu l'incertitude. Et ça m'a fait rire parce que sur les groupes d'entraide de professeurs, beaucoup sont inquiets, un peu de manière hyper exagérée, et conçoivent d'utiliser Telegram ou WhatsApp pour parler avec leurs élèves. Donc voilà un peu ce qu'il en est là actuellement.
Bonjour, je suis professeure de formation musicale, chant choral et chant dans un conservatoire de proche banlieue parisienne. Alors tout de suite, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme type d'enseignement à distance lorsqu'on est professeur de conservatoire? Comment trouver un système de travail à domicile pour les plus petits enfants? Parce que moi, les enfants, j'ai vraiment des petits, j'ai des 7, 8, 9 ans. Donc, il faut trouver quelque chose de ludique. Alors, il y a quelques sites de lecture de notes gratuits, par exemple. Il y a des sites d'histoire de la musique associés à des écoutes d'œuvres. Donc, ça, c'est assez intéressant du point de vue de la culture musicale. Voilà, mais ça, avec des petits-enfants, ça me paraît un petit peu compliqué. J'ai pas trouvé vraiment de site très, très, très ludique et suffisamment facile pour mes enfants.
Ce tâtonnement souligne assez brutalement les inégalités entre certains élèves d'une même classe, qui ont un ordinateur pour toute la famille, une connexion Internet trop instable ou qui ne sont pas dans des environnements dans lesquels il est possible de travailler sereinement.
Le fait, par exemple, là, d'avoir des cours par Skype, c'est assez compliqué, parce que du coup, ça nous crée un peu une distance sociale qui est quand même importante. Le rapport par rapport à ma famille est aussi... compliqué, je ne dirais pas qu'il est difficile parce que c'est quand même ma famille, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour travailler, pour se concentrer. Faut savoir que dans ma chambre, il n'y a pas forcément de réseau, donc je suis obligée d'aller au salon où il y a la télé. Donc là, il y a ma sœur, mon frère, ma mère, mon père, mais aussi ma tante et sa fille qui sont chez moi. Donc nous sommes 7. C'est compliqué.
Et puis surtout, ne pas avoir classe jusqu'à début mai, ça change beaucoup de choses, surtout au lycée. À cette époque, on prend des grandes décisions, si on veut faire des études, et puis des études de quoi, où aller, et puis qu'est-ce que l'avenir nous réserve au fond? Aujourd'hui, tout ça est un peu en suspens.
Hier, il y avait le conseil de classe et je suis déléguée de ma classe. Du coup, on l'a fait par téléphone puisque bah, tout le monde n'avait pas un ordi de dispo à la maison, donc c'était assez compliqué. On a réussi à le faire. On n'avait pas le choix parce que bah il faut remplir Parcoursup et que bah les deadlines pour ça, ça a pas changé. Donc du coup, c'est assez flou, assez compliqué. Mais bon, on fait aller quand même. Mais c'est assez perturbant de remplir Parcoursup en ce moment parce que en fait, on prévoit un futur dont on n'a aucune idée qu'il va exister. Et alors, c'est vrai, c'est le cas tout le temps en soi. On ne sait pas si demain ce sera comme on l'a prévu. Mais globalement, ce qu'on imagine, ça ressemble à ce qui va se passer. Alors que là, on ne peut pas du tout savoir. Du coup, c'est très perturbant d'être en terminale, de normalement visualiser l'année prochaine et de juste se retrouver à réfléchir à « Ah ouais, mais en fait, si ça se trouve, ce ne sera plus du tout la même chose. Si ça se trouve, on ne sera plus dans une même société. Si ça se trouve, ce sera revenu comme c'était. On n'en a aucune idée. » Du coup, c'est flou, c'est perturbant un peu, mais bon... D'un côté, j'espère que le confinement, ça apportera aussi des bonnes choses et que ça nous fera réfléchir à la manière dont fonctionne notre société.
À l'heure où je vous parle, les témoignages des profs qui galèrent à assurer la continuité pédagogique continuent de se multiplier. Telle plateforme plante et sature, telle consigne aux enseignants n'est pas claire, tel élève n'a pas un débit suffisant pour suivre le cours vidéo ou n'a simplement pas d'ordinateur. Selon le ministère de l'Éducation nationale, c'est le cas d'ailleurs de 5% des élèves, soit environ 600 000 personnes. Et malgré toute la bonne volonté des profs, difficile d'atteindre cette population-là et difficile d'éviter que ces élèves ne prennent pas un peu de retard par rapport à leurs camarades. On pense à eux et à vous qui écoutez. La solidarité, c'est peut-être aussi aider à installer un logiciel à distance, faire un diaporama pour un exposé ou juste relire un exercice de maths quand les parents sont débordés. Pour cet épisode, on a décidé d'essayer de donner un petit coup de main aux parents, justement. Si vous pouvez, et si vous en avez, demandez à votre ou à vos enfants de tendre l'oreille. Et même si vous n'en avez pas, écoutez avec nous le fils de Nasreddin, un conte de Jihad Darwish issu de sagesse et malice de Nasreddin, le fou qui était sage, publié en 1999 chez Albin Michel, avec la voix de Juliette Livartowski.
Le fils de Nasreddin avait 13 ans. Il ne se croyait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison. « Les gens vont se moquer de moi », disait-il sans arrêt. Son père lui répétait toujours qu'il ne faut pas écouter ce que disent les gens, parce qu'il critique souvent à tort et à travers. Mais le fils ne voulait rien entendre. Nasreddin dit alors à son fils « Demain, tu viendras avec moi au marché. » Fort tôt le matin, ils quittèrent la maison. Nasreddin s'installa sur le dos de l'âne et son fils marcha à côté de lui. À l'entrée de la place du marché, des hommes étaient assis à bavarder. À la vue de Nasreddin et de son fils, ils lâchèrent la bride à leur langue. « Regardez cet homme, il n'a aucune pitié. Il est bien reposé sur le dos de son âne et il laisse son pauvre fils marcher à pied. Pourtant, il a déjà bien profité de la vie. Il pourrait laisser la place aux plus jeunes. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le deuxième jour, Nasreddin et son fils firent le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille. Le fils monta sur le dos de l'âne et Nasreddin marcha à côté de lui. À l'entrée de la place, les mêmes hommes étaient là. Ils s'écrièrent à la vue de Nasreddin et de son fils, « Regardez cet enfant ! Il n'a aucune éducation, aucune politesse. Il est tranquille sur le dos de l'âne, alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le troisième jour, Nasreddin et son fils sortirent de la maison à pied en tirant l'âne derrière eux. Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place. Les hommes se moquèrent d'eux. « Regardez ces deux imbéciles. Ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. Ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le quatrième jour, lorsque Nasreddin et son fils quittèrent la maison, ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les hommes laissèrent éclater leur indignation. « Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le cinquième jour, Nasreddin et son fils arrivèrent au marché portant l'âne sur leurs épaules. Les hommes éclatèrent de rire. « Regardez ces deux fous, il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. » Et Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. » Sagesse et malice de Nasreddin, le fou qui était sage, Djihad Darwish.
Merci à celles et ceux qui ont témoigné dans cet épisode, Soraya, Anta, Lina, David, Timothée, Florence, Kanda, Azilise et tous les enfants qu'on a entendus dans cet épisode, Ferdinand, Marcus, Colette, Amadou, Fatimata et les enfants de la classe de David. Merci à tous et toutes pour vos témoignages. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Ne sortez que si vraiment nécessaire, même si le soleil brille chez vous, et faites attention à vous. Pour nous parler comme toujours, il y a Facebook, Twitter et Instagram. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.